Le texte que nous allons commenter est tiré du livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, versets 1 à 14. En voici la lecture. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je dis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prononce un oracle sur ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. » Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. « Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai en vous des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle et un mouvement se produisit. Les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai. Voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, « Prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme, dis au souffle. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle vient des quatre points cardinaux. Souffle sur ces morts et ils vivront. » Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux et ils revinrent à la vie. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. C'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël, vous connaîtrez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple. Je mettrai mon souffle en vous, pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol, alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui paraît accompli. Oracle du Seigneur. Nous avons ici un passage très connu de l'Ancien Testament. C'est probablement un des chefs-d'œuvre de l'Ancien Testament, le fameux passage d'Ézéchiel sur les ossements desséchés. C'est comme ça qu'on en est venu à appeler ce passage. Alors ce passage est très intéressant à plus d'un titre, et je voudrais l'aborder avec vous pour vous apprendre à avoir une lecture, disons, spirituelle des Écritures. Les premiers chrétiens, connus sous le nom de pères de l'Église, les premiers écrivains ecclésiastiques, avaient une lecture dite spirituelle. C'est une lecture que on a beaucoup perdu de vue de nos jours, et je pense que ce passage peut nous montrer avec beaucoup d'efficacité et très clairement l'utilité d'une telle lecture. Alors pour faire une lecture spirituelle de la parole de Dieu, il faut d'abord une lecture dite historique ou littérale. La lecture historique est celle qui nécessite une certaine connaissance des Écritures, et notamment de l'histoire du peuple d'Israël. Alors ici, on voit que, notamment à la fin de ce passage, Ézéchiel parle d'un peuple, du peuple d'Israël, qui est loin de sa terre, et que Dieu va ramener sur sa terre, et ce sera synonyme de vie, de résurrection, au sens figuré, pour le peuple d'Israël. Alors, une connaissance de l'histoire d'Israël nous montre bien sûr qu'Ézéchiel est le prophète le plus connu de l'exil à Babylone. En effet, vers 587 avant Jésus-Christ, Israël a été envahi par Nabucodonosor et déporté. Enfin, en fait, c'est de la deuxième déportation, parce qu'il y a eu une première déportation 10 ans auparavant, où une partie seulement de la population de Jérusalem avait été déportée. En 587, c'est vraiment la quasi-totalité de Jérusalem et une bonne partie du Juda qui est déportée à Babylone par Nabucodonosor, et Jérusalem voit son temple détruit, ce qui pour les Juifs est vraiment synonyme de fin du monde, de fin de leur religion, de leur façon de croire. Et pendant l'exil, nous avons très peu de choses, très peu de prophètes, très peu d'écrits. On sait que certaines parties de la Bible, notamment les psaumes, ont été méditées pendant cet exil, mais disons, le prophète que l'on associe à l'exil, un des rares prophètes qui a vraiment prêché pendant l'exil, c'est Ézéchiel. Donc on comprend mieux pourquoi Ézéchiel a cette vision des ossements desséchés. Parce que effectivement, il annonce à son peuple que malgré son exil, malgré les circonstances extérieures, où le peuple est loin de sa terre, où Dieu semble éloigné, eh bien malgré tout, Dieu est toujours là et il prépare le retour de son peuple vers la terre promise, ce qui aura lieu en 537 avant Jésus-Christ, avec notamment Néhémie et Esdras, les Zorobabel, qui vont reconduire le peuple d'Israël vers la terre promise après que Nabucodonosor, enfin lui est décédé, mais après que l'Empire babylonien soit défait par l'Empire perse. Et que Cyrus, qui devient le chef incontesté de tout cet empire babylonien plus l'empire perse, décide, par un édit, dit l'édit de Cyrus, de renvoyer notamment Israël dans sa terre. Et cela verra la reconstruction du temple. Donc ce texte est prophétique. Donc, pour nous concrètement, à travers cette libération d'Israël, cette promesse et ce retour d'Israël que Dieu promet, c'est un appel pour nous montrer que Dieu est un Dieu libérateur, qu'il peut nous libérer, ainsi que notre pays, notre peuple, ce monde, il peut nous libérer et nous faire revenir à la vie. Voilà l'interprétation littérale et historique qui va servir de base à l'interprétation spirituelle. Car effectivement, l'interprétation spirituelle des Écritures, celle qui va nous plonger au cœur de nos vies, de notre vie concrète, de notre vie intérieure, doit prendre appui d'abord sur la lecture littérale ou historique, ce que nous venons de faire. Alors, pour la lecture spirituelle, je vous propose une lecture plutôt linéaire. Alors, voici le début de cette lecture. La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur et me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tous sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Alors, là, ce qui est surprenant, au premier abord, c'est pourquoi donc l'Esprit du Seigneur veut qu'Ézéchiel contemple le désastre. Eh bien, il y a ici un message pour nous, de la part du Seigneur. Trop souvent, nous fermons les yeux sur soit l'état de notre vie, ou l'état de la vie de nos frères, ou l'état de ce monde, pour, disons, nous dispenser d'une évangélisation ou de regarder la réalité en face. Que de fois j'entends des gens dire qu'il n'est pas nécessaire de témoigner de sa foi, que la foi soit au premier rang de nos préoccupations, parce que tout simplement, nos frères vivent très bien sans la foi. C'est une affaire privée qui ne regarde personne. Contentons-nous de vivre notre foi dans notre petit secret, et la dimension, le témoignage, en est complètement absente. Eh bien, il serait bon, dans la prière, que le Seigneur toujours davantage nous montre que les gens, sans lui, sont comme des ossements desséchés. Il manquera toujours quelque chose dans la vie des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ce qui, quelque part, nous responsabilise, parce que du coup, on ne peut pas dire « je vais vivre ma petite foi tranquille », nous avons de responsabilité parce qu'il y a urgence, parce que les gens sont des ossements desséchés. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut en être convaincu, il leur manque quelque chose dans leur vie, quelque chose d'essentiel. De même, notre société ne va pas bien. Car une société qui refuse Dieu dans sa vie, privée ou publique, se coupe de la vie elle-même et ne peut pas aller bien. De même dans notre vie, trop souvent, nous pensons que dans certains aspects de notre vie, la foi n'est pas nécessaire. Or, si la foi est absente de certains aspects de notre vie, ces aspects sont comme des ossements desséchés. Il faut prendre la foi au sérieux dans tous les aspects de notre vie. De même, pour nos frères, il faut se rendre compte que vraiment nous avons une responsabilité car sans le Seigneur, ils sont comme des ossements desséchés. Ce monde aussi ne va pas bien, il a besoin de nous. C'est le sens de l'Esprit de Dieu qui montre à Ézéchiel cette vallée. Le monde, nos frères, nous-mêmes, les aspects de notre vie que nous soustrayons à Dieu, eh bien tout ça, c'est comme une vallée d'ossements desséchés. Il me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils vivre? Je dis, Seigneur, c'est toi qui le sais. Alors, là, moi, je me serais attendu à la, comme réponse, de la part d'Ézéchiel, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Oui, bien sûr, tu peux le faire. Et Ézéchiel a cette réponse assez surprenante, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Je trouve qu'il y a ici une dimension d'humilité que nous ferions bien de prendre comme modèle. Parce que ici, Ézéchiel s'abandonne totalement à Dieu. Il n'essaye pas de prendre des décisions à la place de Dieu. Il n'essaye pas d'agir pour Dieu sans le consulter. Ézéchiel est dans un esprit de prière et d'abandon. Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Tout est entre tes mains. C'est un petit peu ça qu'Ézéchiel dit au Seigneur. Eh bien, si nous-mêmes nous voulons faire revivre les ossements de nos frères, de ce monde, ou de pans entiers de notre vie, nous devons vraiment nous confier à Dieu et nous abandonner à lui. C'est la première condition. Hein? Oui, même des choses évidentes, il faut toujours le faire dans un esprit de prière. Ne jamais agir sans vraiment prier le Seigneur, connaître sa volonté dans la prière et la méditation de sa parole. Parce que des fois, nous voulons faire des choses évidentes, pensons que c'est la volonté du Seigneur ou que cela fera plaisir au Seigneur. Or, la vie chrétienne, c'est d'abord se mettre à genoux devant Dieu, le consulter, le prier, et ensuite agir. Alors ainsi, nous n'agissons pas pour Dieu, mais avec Dieu, c'est toute la différence. Oui, Seigneur, c'est toi qui le sais. Il me dit, prononce un oracle sur ses ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses ossements. Je vais faire venir en vous un souffle pour que vous viviez. Je mettrai en vous, enfin sur vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, j'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle, et vous vivrez, alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Le Seigneur, ça paraît une évidence pour quelqu'un qui médite la parole, mais il est bon de se le rappeler, le Seigneur est celui qui peut faire revenir à la vie les ossements desséchés. Il n'y a rien de trop desséché pour que le Seigneur ne le fasse revenir à la vie. Il faut en être convaincu. De même, trop souvent, quand nous avons des problèmes, nous essayons de trouver de l'aide auprès de beaucoup de choses, de gens. Je ne dis pas que cela n'est pas nécessaire. Mais tout à l'heure, dans la prière, j'ai dit, Seigneur, apprends-nous à ne compter que sur toi. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas compter sur les autres, mais nous devons compter d'abord sur le Seigneur. Nous devons tout faire subordonné au Seigneur. C'est d'abord lui notre aide, c'est vers lui que nous devons nous tourner d'abord, pour ensuite éventuellement nous tourner vers d'autres. Mais tout cela doit être fait sous la conduite de Dieu. Dieu seul est celui qui peut pleinement nous aider et aider nos frères. Voilà, cela aussi veut dire que ce n'est pas nous qui pouvons rendre la vie aux ossements desséchés, c'est le Seigneur. C'est d'abord par la prière que se gagnent les combats et que se remportent les victoires. Le reste n'est que prolongement de cette prière, n'est que achèvement de la victoire gagnée dans la prière. Oui, le Seigneur peut faire revenir à la vie des pans entiers de notre vie. Nos soucis, nos problèmes, tout ce qui nous paraît impossible à vaincre, le Seigneur peut le vaincre. Des frères qui nous semblent tellement éloignés de Dieu, eh bien le Seigneur peut les faire vivre. Ce monde qui semble tellement aveugle, tellement fermé à Dieu, peut revenir à Dieu. Oui, ces ossements desséchés, le Seigneur a le pouvoir, lui seul, de les faire revenir. Je prononçais l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Eh bien, je trouve ça très beau. Parce que le Seigneur veut que, pour agir, pour faire cette chose fantastique qui est de rendre la vie aux ossements desséchés, il veut qu'Ézéchiel, il veut que nous, ses serviteurs, nous prononcions l'oracle. Le Seigneur pourrait agir sans nous, mais il veut, il en a voulu ainsi, agir avec nous et par nous. Eh bien, pourquoi C'est quelque chose de merveilleux. Le Seigneur agit par amour, donc il agit dans le respect de la liberté. Donc si le Seigneur veut sauver l'humanité, il agit par les hommes. Ainsi l'homme sauve l'homme. Dieu sauve l'homme par l'homme. Dieu sauve l'homme par l'incarnation de son Fils qui s'est fait homme. Et dans le prolongement de l'incarnation, Dieu veut sauver les hommes en incarnant sa grâce dans nos prières, dans nos actions, dans nos paroles. Voilà pourquoi il veut que nous prononcions l'oracle. Il veut que nous prions et que nous aimions, et que éventuellement nous témoignions en parole si l'occasion s'en présente. Nous ne pourrons pas faire l'économie de ça. Nous ne pouvons pas nous dédouaner de la responsabilité que Dieu nous donne. C'est quelque chose de très beau, mais c'est aussi une responsabilité. Dieu veut agir par nous. Et par nous, c'est-à-dire d'abord par notre prière. Donc nous avons ce pouvoir, ce privilège de prononcer l'oracle. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle. Et un mouvement se produisit, les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardai, voici qu'il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissait, et il étendit de la peau par-dessus, mais il n'y avait pas de souffle sur eux. Ah, c'est étrange. On se serait attendu que l'oracle soit prononcé tout de suite, là les os reviennent à la vie. Eh bien là, ça se fait par étapes. D'abord, le Seigneur va soigner les corps, mais il n'y a toujours pas le souffle. Eh bien, c'est quelque chose de très important. Nous devons apprendre justement que Dieu agit dans le respect de la liberté, par amour, donc il agit progressivement et par étapes. Cela doit nous encourager à la patience. Nous devons rentrer dans le dessein de Dieu, nous devons épouser sa façon d'agir, cela s'appelle douceur et patience, ne jamais faire les choses de manière précipitée, ne jamais être naïf au point de croire que tout va se solutionner au bout de quelques jours. Très souvent, il faut prier très longtemps, aimer très longtemps dans la patience et le silence, avant que les ossements aient le souffle en eux. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Alors voilà où intervient, disons, l'interprétation spirituelle. Cette interprétation, en fait, comporte plusieurs volets. D'abord, la première lecture spirituelle se veut, disons, allégorique ou typologique. Cela consiste à voir, notamment dans l'Ancien Testament, le Christ ou le Nouveau Testament. Alors ici, c'est très simple. La première révélation de Dieu, la révélation préparatoire à la révélation ultime, c'est l'Ancien Testament. Dieu d'abord rassemble les eaux, la chair autour des eaux, c'est l'Ancien Testament. C'est la révélation préparatoire. Cela, par voie de conséquence, nous apprend la place centrale du Nouveau Testament et du Christ dans nos vies. Je tiens aussi à faire remarquer que le fait que Dieu rassemble les eaux avant de l'insuffler le souffle montre que Dieu s'intéresse au corps et donc à la vie quotidienne. Dieu est celui, bien sûr, qui va amener les gens à lui, qui va transformer le cœur, mais il est aussi celui qui rend heureux dans la vie quotidienne. Dans la vie matérielle, Dieu s'occupe aussi de notre vie matérielle. Alors cela ne veut pas dire que nous aurons beaucoup d'argent et que tout se fera comme on veut. Mais le Seigneur nous a dit dans le Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, c'est aussi le pain physique du corps. Donc ayons confiance, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, il connaît nos frères mieux que nous-mêmes, donc Dieu nous aide dans tous les aspects de notre vie. Donc Dieu nous aide spirituellement, mais aussi matériellement. Dieu va insuffler le souffle de vie aux eaux, mais il fait d'abord la chair, etc. Donc Dieu agit concrètement dans le quotidien de nos vies et aussi sur un plan matériel. Mais revenons à l'interprétation donc typologique. Donc l'Ancien Testament est préparatoire. Mais lire l'Ancien Testament sans avoir le Nouveau Testament dans l'esprit, c'est rater beaucoup de choses, c'est rater l'essentiel. Le Nouveau Testament est la clé pour comprendre toute la Bible. La Bible doit se comprendre vraiment à l'image du Christ, ou plutôt la Bible se comprend avec comme clé de lecture le Christ, comme le Christ en son centre. Ces ossements aussi desséchés qui commencent à se rassembler, toujours dans le même ordre d'idée de préparation, c'est aussi des autres religions. Il s'agit de respecter la foi de nos frères qui n'ont pas foi au Christ, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, les juifs. Mais ici, comme vous le voyez bien, il manque le souffle de l'esprit que le Christ seul peut nous donner. Donc il faut un grand respect, il faut regarder la foi de nos frères et les autres religions comme étant de bonnes choses, mais des choses préparatoires. C'est ce que dit Vatican II d'ailleurs, et beaucoup de gens ont mal compris et pensent que toutes les religions se valent. Ce n'est pas ce que dit Vatican II, ce n'est pas ce que dit ce texte. Ce texte nous fait comprendre qu'il y a de bonnes choses, des choses préparatoires, que le Seigneur utilise ce qu'il veut, que les cheminements des gens sont, disons, personnels, qu'une personne ne vient pas à Dieu d'une même manière qu'une autre, car tout être humain est unique, mais il n'en reste pas moins que le but ultime, c'est quand même le souffle qui va donner la vie de Dieu à ces os desséchés, à ces os maintenant qui ont de la chair, mais il leur manque le souffle de Dieu. Et ça, seul le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Christ, peut le donner. Cela veut dire aussi que par rapport à nos frères d'une autre religion, il ne s'agit pas de mépriser leur foi, mais de même, nous devons prier pour eux et les aimer dans le but qu'ils découvrent le Christ. Et non pas dire, un petit peu comme tout à l'heure, quand je parlais des ossements desséchés dans la vallée, oh, chacun est heureux, sans Dieu ou avec Dieu, peu importe, chacun son problème, chacun, ici on pourrait dire chacun sa foi. Bon, moi je vis ma foi, moi c'est tout. Nous avons une responsabilité aussi vis-à-vis des gens qui n'ont pas rencontré le Christ, bien qu'ils connaissent une certaine spiritualité. Et la première responsabilité, c'est de prier pour eux et de les aimer comme prolongement de la prière, tout ça dans le but que la grâce de Dieu fasse son chemin et que le souffle arrive dans leur vie spirituelle. C'est-à-dire que le Nouveau Testament, le Christ, fasse irruption dans leur spiritualité. Alors continuons. Donc il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Ah, je trouve ça extraordinaire. Le souffle, dans la Bible, se dit « ruah ». « Ruah » est aussi le mot qui veut dire « esprit ». D'ailleurs, le mot latin « spiritus », d'où vient notre mot « esprit », veut aussi dire « souffle ». Donc, dans la Bible, dans l'hébreu, comme dans le latin, comme d'ailleurs dans le grec, le souffle est le synonyme d'esprit, donc d'esprit saint. Le souffle de Dieu, c'est l'esprit saint. C'est notre respiration, c'est notre vie intérieure, c'est le souffle vital. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce passage de la Genèse au chapitre 2, où de même, Dieu va d'abord modeler Adam de la terre et ensuite seulement lui donner le souffle. Nous avons ici une nouvelle création. Alors, ça nous amène à la deuxième lecture spirituelle. Mais avant d'aborder la deuxième lecture spirituelle, je voudrais un peu continuer dans le texte. Donc, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils d'homme, dit au souffle, ainsi par le Seigneur Dieu. Souffle vient des quatre points cardinaux. Souffle sur ces morts et ils vivront. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Le souffle entra en eux. Ils revinrent à la vie. Ils se tinrent debout. C'était une immense armée. Alors, la deuxième lecture spirituelle, c'est une lecture dite tropologique. Cette lecture consiste à interpréter l'Écriture par rapport à la vie intérieure du cœur de notre âme, de notre propre personnalité ou celle de nos frères. Et ici, on voit tout à fait. Donc le Seigneur, je disais, agit progressivement, donc d'une manière préparatoire. Donc on a vu l'Ancien et le Nouveau Testament, mais nous pouvons aussi penser la vie intérieure en nous-mêmes, en nos frères. Le Seigneur agit progressivement. Tout ne se fait pas d'une baguette magique parce que le Seigneur agit dans le respect des libertés. C'est d'abord dans l'inconscient de chaque personne que Dieu travaille avec respect et douceur, lentement mais sûrement. Le Seigneur ne fait pas irruption devant la personne en s'imposant. Même dans la Bible, par exemple saint Paul, il reçoit une vision foudroyante du Christ dans les Actes des Apôtres, mais il y a eu un travail intérieur très long pour permettre cette irruption du Seigneur. C'est pareil pour nos frères. Quand nous prions pour eux, très souvent il ne se passe rien pendant des mois, des années. Mais nous devons avoir conscience que le Seigneur rassemble les eaux, les mers, rassemble tout pour que enfin il puisse insuffler son souffle au moment venu. Et le souffle, quand Dieu insuffle le souffle dans la vie de quelqu'un, c'est quand enfin cette personne est mûre pour ouvrir les yeux et s'ouvrir au souffle de l'Esprit. C'est quand la présence du Seigneur, qui était discrète et intérieure dans l'inconscient de la personne, se fait consciente, arrive à la conscience de la personne. C'est ce qu'on appelle la conversion. Mais il faut un long travail préparatoire, c'est la première étape, les os qui se rassemblent, la chair qui couvre les os. Voilà. Et pour nous-mêmes aussi, quand nous prions pour nos problèmes, Ne croyons pas que tout se solutionne d'un coup, parce que nous avons souvent des réticences à l'action de Dieu, et il faut du temps pour que le Seigneur travaille en nous, pour que librement nous acceptions sa volonté et sa solution à lui, et d'agir en conséquence. Donc c'est pour ça que parfois nous prions pour, par rapport à tel ou tel défaut ou tel problème, mais il faut du temps. Eh bien, n'en soyons pas découragés, soyons toujours conscients de cette action de Dieu dans notre vie, dans celle de nos frères pour qui nous prions. Le Seigneur agit discrètement, lentement, mais sûrement, d'abord dans l'inconscient de la personne, avant d'ouvrir son souffle, avant que son souffle arrive, que vraiment il nous communique consciemment son esprit et que nous devenions des êtres vivants. Et puis il y a la dernière interprétation, celle qui se dit anagogique. Elle est plutôt située vers le royaume de Dieu, vers le ciel. Et là je reprends cette image d'Adam et Ève, parce que finalement ici nous avons une nouvelle création. Alors, bien sûr, cette nouvelle création, c'est d'abord, si on reprend les deux autres interprétations dont je viens de parler, le Nouveau Testament est une nouvelle alliance, une nouvelle création, un Nouveau Testament par rapport à l'Ancien. De même, nous-mêmes, quand nous nous ouvrons au Christ ou quand nos frères s'ouvrent au Christ, comme le dit saint Paul, nous devenons une nouvelle création. Et puis, tout simplement, il faut penser au ciel aussi. Eh bien, le Seigneur, quand il nous modèle d'abord et nous communique son souffle pour nous faire revivre, eh bien, c'est une deuxième création. C'est quelque chose de très beau. Souvent, nous avons tendance à croire que la vie éternelle est quelque chose d'automatique. Nous mourons et automatiquement nous revivons. Mais cela, le Seigneur, il a mouillé sa chemise, si j'ose dire. Le Seigneur a recréé les choses. Il a refait quelque chose. Et tout comme il s'est reposé le septième jour, après avoir fait sa première création, c'est une image pour dire que plus jamais rien ne sera comme avant pour Dieu parce que il s'est engagé par rapport à l'humanité. Dans sa deuxième création, le Christ s'est reposé le samedi saint dans le tombeau. Ça lui a coûté la vie pour justement permettre cette deuxième création, cette deuxième chance qui dépasse infiniment la première, puisque maintenant, avec le Christ, notre humanité se trouve en plein cœur de Dieu, dans la Trinité, au ciel même. Donc déjà, soyons pleins de louanges par rapport à Dieu, pour qui la vie éternelle est un don et non pas un dû, et cela lui a coûté, tout comme pour la première création, cela lui a coûté un investissement de sa part. Et cette image est très importante. De même pour la compréhension par rapport à la vie éternelle. Dieu agit, nous prépare. Alors bien sûr, il nous prépare à la vie éternelle en ce monde. Si nous nous convertissons à Dieu, nous suivons sa volonté, c'est une préparation pour que nous soyons mûrs pour la vie éternelle. Mais ceci est une image aussi du purgatoire. Vous voyez, le purgatoire, c'est aussi un peu ces eaux desséchées. Il y a une activité préparatoire, la chair, tout se met en place avant que le souffle de Dieu arrive, c'est-à-dire le paradis, la pleine vision de Dieu. Cela nous engage aussi à prononcer l'oracle. Alors non seulement prier pour nos frères en ce monde, mais aussi pour les âmes du purgatoire. Parce que par notre prière, nous prononçons cet oracle qui accélère le rassemblement des eaux, la croissance de la chair, et qui accélère le moment où Dieu pourra enfin leur insuffler la véritable vie, c'est-à-dire sa propre vie, sa propre vision. Voilà. Donc il faut vraiment, quand vous lisez la parole de Dieu, cela ne doit pas être automatique, c'est pas tous les textes qui se prêtent à ces différentes visions, mais disons, ne pas perdre de vue tous ces angles de lecture, la dimension historique, ou littérale, où là, une certaine connaissance est nécessaire de l'histoire du peuple d'Israël. Après, il y a la spirituelle, notamment dans l'Ancien Testament, avec la vision typologique ou allégorique, voir le Christ comme centre de l'Écriture. C'est important parce que ça renforce notre relation personnelle avec le Christ, de le voir dans chaque page de l'Écriture. C'est aussi important parce que, même dans les pages les plus obscures et les plus terribles, choquantes, si nous avons le Christ en tête, nous voyons toujours le message de la Bible, le message central qui est « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » Jean 3:16. Bien avec ça dans la tête, la plupart des passages, nous pourrons les interpréter avec un regard d'amour, celui du Christ. Et puis n'oublions pas la vision anthropologique qui est très importante, car elle actualise la parole de Dieu dans nos vies et nous donne aussi une perception psychologique de la parole de Dieu, de son action dans l'intérieur. Ce qui nous montre la puissance de la prière qui agit dans le cœur de nos frères et dans nos propres cœurs, Elle nous apprend la patience à chaque page des Écritures, la puissance de la prière qui est de la grâce de Dieu. Prière et grâce de Dieu sont liées, qui travaillent dans le secret, et la vision anagogique qui nous rappelle notre véritable patrie, comme dit l'Épître aux Hébreux, donc la patrie du ciel. C'est important aussi, disons, d'avoir toutes ces clés de lecture parce qu'elles nous permettent de tirer la substantifique moelle, comme disait Rabelais, de tirer le message vraiment inspiré de Dieu, quelles que soient les pages des Écritures, aussi choquantes soient-elles. Donc, n'oublions pas toutes ces lectures. Donc, continuons si vous voulez bien. Ah oui, alors, si nous regardons aussi ici, le Seigneur dit « Souffle vient des quatre points cardinaux ». Donc, « souffle sur ses morts et ils vivront ». Donc, c'est l'oracle d'Ézéchiel qui permet à l'Esprit-Saint, donc l'homme, qui permet à Dieu de sauver l'homme, comme ça la liberté de l'humanité est respectée. Donc, Ézéchiel prononce l'oracle et donc il dit à l'Esprit-Saint, souffle vient des quatre points cardinaux. Il faut être conscient de cette chose-là. L'Esprit-Saint nous entoure, nous englobe, il est tout-puissant. Malgré les apparences qui souvent tentent à nous montrer que, eh bien, nous avons beau prier, nous avons beau aimer, le royaume de Dieu, dans le cœur de nos frères ou en ce monde, est bien discret et bien peu efficace. Bien peu de choses se passent. Mais c'est le calme avant la tempête, je veux dire, la tempête du souffle de l'Esprit. Parce que l'Esprit, il est partout, il est dans les quatre points cardinaux, il est présent dans le cœur de nos frères, dans nos vies, dans les aspects de nos vies que nous remettons au Seigneur, en ce monde. Il agit discrètement, mais il est là aux quatre points cardinaux. Il entoure notre action, il entoure notre prière. L'Esprit-Saint est omniprésent, omnipuissant, omnipotent, mais aussi amour. C'est justement pour ça que le Seigneur est si puissant, c'est parce qu'il est si amour, il est partout, il connaît tout. Et ainsi, il nous aime avec une profondeur insoupçonnée. Donc le Seigneur, certes, agit lentement, mais il est le Seigneur du souffle qui vient des quatre points cardinaux. Il agit, lentement, mais sûrement. Je prononçais l'oracle, donc comme j'en avais reçu l'ordre, ce que nous venons de lire, et les ossements revinrent à la vie, c'était une immense armée. Si nous agissons par nous-mêmes, les résultats seront bien maigres. Mais seul celui qui prie, qui agit en épousant le souffle de Dieu, qui agit dans l'amour, la patience, peut tout arroser, guider de prière, est celui qui peut faire lever une immense armée. Seul le Seigneur, et seul nous dans cet esprit de prière, pouvons faire lever une immense armée dans notre vie, dans le cœur de nos frères, en ce monde. C'est très, très important. Donc ayons toujours cet état d'esprit qui épouse la stratégie de Dieu, aimer et prier. Alors une immense armée se lèvera, c'est-à-dire quelque chose qui va toucher une profondeur insoupçonnée, une efficacité bien au-delà de nos espérances. C'est à la mesure du temps et de la liberté, du respect que Dieu a manifesté, du temps qu'il a mis pour agir. Et épaulé par notre prière et notre amour pour nos frères, le tout nourri par sa grâce, c'est à la mesure de ce temps, de cette prière, que le Seigneur pourra agir avec une profondeur insoupçonnée. Si justement le Seigneur peut lever une immense armée, c'est parce qu'il est celui qui sait aimer d'une manière immense. Eh bien, nous-mêmes épousons cette immensité de Dieu en lui demandant de toujours de nous apprendre à aimer davantage, et de nous apprendre à prier toujours avec patience et amour pour nos frères et pour nous-mêmes. Je voudrais revenir aussi, j'ai oublié de le dire, mais vous avez remarqué dans ce texte, très souvent on dit prononce un oracle sur ses ossements. Il y a aussi un moment où on dit on parle de la parole de Dieu, ainsi parle le Seigneur à ses ossements. Et puis il leur dit écoutez la parole du Seigneur. Je regarde plus précisément, fils d'homme, etc. Il me dit, prononce un oracle, ossement desséché, voilà ici, écoutez la parole du Seigneur. Je reviens à ça parce que c'est quand même important. Le centre de la foi, c'est bien sûr le Seigneur, mais par quel moyen parle-t-il? Par excellence, c'est bien par ta parole. Il faut vraiment mettre la parole de Dieu au centre de notre foi comme étant le moyen par lequel nous pouvons connaître Dieu. Son cœur, sa pensée, sa volonté. C'est cela qui m'a toujours frappé. Les chrétiens, disons, les plus fervents sont ceux justement qui lisent le plus la parole de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a justement ce souffle qui traverse la parole de Dieu. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous nous privons de ce souffle, et alors nous sommes certes des ossements avec de la chair, etc., mais il nous manque l'essentiel. Voilà, je voulais quand même le préciser. Alors continuons la lecture de ce texte. La dernière partie. Il me dit, fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pied. Alors revenons. Oui, revenons ici à l'interprétation historique. Bien sûr, c'est les Hébreux qui, pendant l'exil, étaient désespérés, et Ézéchiel leur dit, ne perdez pas espoir, le Seigneur va vous libérer. Il a permis que vous soyez en exil parce que vous étiez loin de lui. C'est ce que on dit des prophètes comme Isaïe, Michée, bon, avec déjà le temps, mais des prophètes plus immédiats comme Jérémie, juste avant l'exil, Habacuc. Donc tous ces prophètes n'ont cessé de dire à Israël, c'est parce que vous êtes loin de Dieu que vous allez être en exil. Ézéchiel a la démarche inverse, il dit maintenant que vous réfléchissez, que vous êtes désespéré, que vraiment vous retournez vers le Seigneur, que vous vous rendez compte que sans Dieu, la vie est bien vide, bien insipide, eh bien, ayez confiance en lui, et il y a le découragement. Alors de nouveau, dans notre lecture spirituelle, notamment l'interprétation anthropologique, eh bien, nous sommes souvent découragés. Nous prions et puis, on a envie de dire, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces. Nos frères ne se tournent pas plus vers toi. Nos problèmes ne semblent pas se solutionner dans un avenir immédiat. Ce monde semble toujours aussi loin de toi, Seigneur. Eh bien, le Seigneur nous dit, par l'intermédiaire du prophète, non, non, ne vous découragez pas, c'est ce qui va suivre dans la suite du texte. Mais cessons de dire, oh là là, cessons de nous plaindre, parce que l'exaucement ne vient pas assez vite, parce que nous ne portons pas de fruits assez rapidement. Laissons faire le Seigneur, il agit, lentement mais sûrement. De même, il faut être convaincu qu'en chaque être humain, il y a une part de Dieu, il y a une part de chaque être humain qui a soif de Dieu, aussi éloigné cet être humain soit-il. C'est le Seigneur qui disait dans une de ses paraboles que le royaume, c'est comme un grain de moutarde, et puis il va finir par grandir, mais c'est d'abord la plus petite graine. Dans le cœur de nos frères, eh bien très souvent la graine, cette soif de Dieu, cette partie divine de nos frères, est comme prisonnière, étouffée. Souvenons-nous de la parabole du semeur, cette graine qui est étouffée par les soucis du monde, par les ronces. Eh bien, c'est comme si cette partie dans nos frères désespérait d'être étouffée, d'être sous le joug de cette conscience de nos frères qui se ferme à Dieu, alors que dans leur inconscient plus profond, il y a cette soif de Dieu. C'est comme si cette partie dans nos frères disait « Nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu ». Notre rôle, c'est le rôle d'Ézéchiel, de leur redonner courage, d'arroser cette graine qui étouffe par notre prière et notre amour pour qu'elle grandisse et qu'elle s'ouvre au souffle de Dieu, oui, qu'elle ouvre un chemin dans la conscience de nos frères, et qu'elle ouvre une porte pour que le souffle de Dieu s'engouffre dans leur conscience. C'est aussi notre rôle en tant que chrétiens. Soutenons cette croissance de la graine, de cette envie de Dieu, de cette soif de Dieu qui est en nos frères. Soutenons cette graine, cette grâce qui pousse, pour qu'elle ne me dise pas « je suis desséché, je suis en pièces, mon espérance a disparu ». Oui, vraiment, par notre prière et notre amour, soutenons vraiment cette croissance. Comme ça, eh bien, cette croissance va faire irruption dans la conscience de nos frères, faire une brèche où le souffle de l'esprit va s'engouffrer. Alors voici la suite, c'est pourquoi. Prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux. Je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël, vous connaîtrez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux, et que je vous ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple, je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez, je vous établirai sur votre sol, alors vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Oracle du Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui puisse dire, vous connaîtrez que c'est moi le Seigneur qui parle et accomplit. Trop souvent nous nous tournons vers les idoles. Ce monde a beaucoup de solutions spectaculaires mais vides. Le Seigneur travaille certes lentement, mais efficacement, car lui seul parle et accomplit. Lui seul peut lever une immense armée. à la mesure de sa patience et de son amour. La profondeur est donc à la mesure, l'efficacité est à la mesure de l'amour que Dieu manifeste dans sa patience. Mais cela nous appelle à la patience, mais non pas à l'illusion et au découragement, en nous disant rien ne se passera. Continuons à prier, être patients, parce que le Seigneur, lui seul, parce qu'il aime, parce qu'il respecte la liberté de nos frères, est capable d'ouvrir les tombeaux, vraiment de faire que des ossements desséchés retrouvent espérance, qu'ils ne soient plus en pièces mais qu'ils se rassemblent, et que le souffle de Dieu leur prête vie et leur prête mouvement, que nos frères ainsi se mettent en mouvement vers Dieu, que nous-mêmes nous remettions en mouvement, que la dépression, les problèmes quittent, et que ce monde enfin cesse de se regarder lui-même et se mette en mouvement les uns vers les autres. C'est ça, vraiment, et seul Dieu est capable de le faire. Seul Dieu peut nous faire remonter de nos tombeaux, seul Dieu peut ouvrir nos tombeaux, lui seul, seul son souffle fait que nous puissions revivre. Et le pouvoir est à nous. Nous seuls pouvons prononcer l'oracle, convoquer l'Esprit Saint des quatre points de l'horizon, des quatre points cardinaux. Par notre prière et notre amour, nous pouvons mobiliser la grâce de Dieu dans le cœur de nos frères, dans notre propre cœur, dans ce monde, et aussi dans le purgatoire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre à cœur, et que cette méditation, ce commentaire, vous encourage toujours plus à prier et aimer, et vous donne toujours plus de patience et d'espérance en la grâce de Dieu qui est toute puissante et efficace, qui fait revivre. Voilà. Je vous propose maintenant de prier à partir de ce commentaire. Oui, prions maintenant. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire votre cette prière. Ô Seigneur, d'abord merci parce que tu nous aimes et tu veux vraiment nous sortir de nos tombeaux. Tu veux vraiment nous sortir de nos problèmes, de nos prisons. Tu veux sortir nos frères de leurs tombeaux. Tu veux sortir les âmes du purgatoire, de leurs souffrances. Eh bien, Seigneur, nous te prions, comme Ézéchiel, nous nous faisons vraiment ton porte-parole. Nous convoquons le souffle dans nos vies, dans la vie de nos frères, dans la vie de ce monde, dans la vie des âmes du purgatoire. Oui, Seigneur, viens, viens, Seigneur, Esprit Saint. Viens embraser ce monde, viens embraser nos cœurs. Ensuite, Seigneur, oui, apprends-nous toujours à dire ta parole avec le Christ dans le cœur, avec ce souffle nouveau que le Christ nous a apporté. Que chaque parole de la Bible soit pour nous une parole d'espérance, à la mesure du souffle que le Christ peut mettre en nous, comme il l'a fait dans ses apôtres, juste une semaine après sa mort. Oui, Seigneur, viens souffler sur nous, viens souffler sur nos lectures. Oui, montre-nous toujours le message d'espérance, le nouveau souffle de ta parole. Nous prions, Seigneur, pour ce monde, pour tous les gens qui sont ouverts à Dieu mais qui ne t'ont pas encore rencontré, Jésus. Oui, viens leur apporter un nouveau souffle dans leur spiritualité. Oui, vraiment, Amen. Oui, j'espère que ce moment passé avec la parole de Dieu en ma compagnie vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, chers internautes.
Free audio post-production by Alphonic.com.